Pop-popienne, pop-popien et tous les autres aussi, bonjour. Troisième numéro de votre Maxi Best Pop. Un Maxi Best Pop, je vous le rappelle, est une émission qui permet de revenir en arrière à la manière du Doc, quelques cheveux blancs en moins et de Marty, avec la même doudoune rouge sans manches qui fait bien transpirer en ce mois d'avril, mais qui permet de tenir tête au dicton. Ne te découvre pas d'un fil, un dicton qui traverse les époques sans bouger, contrairement à nous. Bref, l'avantage d'une émission Retour vers le futur est donc de pouvoir remonter le temps tout en étant en direct, tout en sachant que comme ce monologue est enregistré, je peux l'écouter depuis mon jardin en Normandie tout en tondant ma pelouse. Et si je veux aller dans le futur pour faire écouter ce monologue en direct à mon moi qui tond sa pelouse, c'est possible. C'est vraiment trop fort, hein, me direz-vous. Et je peux même vous faire aller dans le futur et dans le passé, donc pour vous dire que Laure Calamy, qui est notre invitée du jour, enfin d'hier, pouffera de rire dès qu'elle entendra un mot en particulier. Je peux également vous dire que Baptiste Le Caplain, qui sera dans ma DeLorean, nous dira s'il veut voir des gens. Voilà, vous savez tout ? Enfin, vous savez que je sais tout. Allez, pop, 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 c'est parti.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine de Gaulle.
Et bonjour, Laure Calamy.
Bonjour, mon capitaine.
Ah, mon capitaine, j'aime beaucoup. Attendez, je mets ma casquette. Je vous trouve très en joie.
Oui, bah écoutez, je suis contente d'être là avec vous.
Et pourtant, vous savez que le sujet est très sérieux aujourd'hui.
Totalement. Hein, mais ça n'empêche pas de rire comme, voilà, comme les prostituées savent rire d'ailleurs des situations.
Absolument, parce que vous jouez, votre héroïne est une prostituée dans ce film dont nous allons parler. Alors, je dis femme du monde parce que c'est le titre du film, bien sûr, et je voudrais qu'on commence par ça. Comment la femme que vous êtes, c'est une question très générique, hein, se sent-elle dans le monde où nous sommes aujourd'hui?
La question. Ah oui, dis
là,
donc.
Ça rigole moins.
Bah oui, bah alors justement, non, ça va dans le même sens. C'est-à-dire que le monde en ce moment, est parfois écrasant, laminant, désespérant. Ouais. Et justement, je trouve que il faut essayer de garder sa légèreté.
Ouais.
C'est, je trouve, ce qu'il y a de plus dur à faire, surtout quand on vieillit. Ouais. Et voilà, et continuer de rire de tout ça et de la mort. Pardon.
Je t'en prie. Hein, mettez quand dit le mot mort, ça me fait rire de toute façon. Je peux pas résister. Si vous me dites mort, ça y est, je suis parti avec vous. Non mais alors, Laure Calamy, il y a quelque chose chez vous qui me stupéfie à chaque fois que je vous croise. Il émane de vous une joie. Mais une joie au sens pur étymologique du terme. D'où elle vous vient cette joie-là? Dans l'existence. C'est trop sérieux aussi, ça?
Non, j'aime bien la question. Écoutez, c'est vrai que... Alors, elle n'est pas toujours là, je vous rassure, c'est pas en permanence.
Vous n'avez qu'à appeler le capitaine. Hein.
Voilà, exactement. Mais mais c'est vrai que... non, il y a une joie quand même que j'essaie de conserver, d'être au monde. Voilà, c'est pour ça que, par exemple, j'adore Etty Hillesum, qui était une femme... d'un coup, je fais un parallèle. Hop,
allez-y,
on s'en va.
Allez-y, c'est bon, je me suis...
Non, mais voilà, qui malgré elle était dans le camp de Westerbork et tout ça, et qui gardait cet étonnement du monde, de la beauté du monde, de quand même penser que, et même là, comme on est ensemble, il y a de la joie possible qu'on peut créer ensemble. Et c'est ça que j'aime quand on est dans les salles de cinéma, les salles de théâtre, c'est qu'on est ensemble et on va créer de l'émotion, de la joie, de la pensée, tout ce qu'on veut. On va toucher du coude le voisin, peut-être il va se passer des choses, on ne sait pas. On aime l'inconnu.
Et c'est exactement tout ce qui se passe dans ce film, hein, Une femme du monde. Je vous redis le mot « mort ». Tout de suite la fin d'humeur est là. Bien sûr. Bon, et ben je vais vous
ça prendre. Repousse la mort de
mais
rire.
évidemment allez, repoussons-la encore, allez, mort. Dites-moi, revenons en France,
hein,
et même en Irlande et au Royaume-Uni, pays dans lesquels sortent Une femme du monde, le film dont nous allons parler ensemble avec Charline, qui le retrouvera juste après. Tiens, un morceau qui termine ce film et que j'ai réécouté grâce à vous, grâce au film, c'est le vent couvert. Le vent couvert, oui. Mais oui, de Véronique Sanson. Allez, on écoute.
Allez, devez l'envie, ça je l'ai bien connu. Je mène ma vie comme un radeau perdu. Vous accueillez avec des rires et des bravos. je les connais bien. Les filles qui vont autour des musiciens. Les gens de la nuit qui sont toujours là quand il faut. Ils vous appellent avec des rires et des bravos. Le son du silence.
Véronique Sanson, Vancouver, une chanson qui était reprise en chœur par notre invité, Laure Calamy, qui la connaît sur le bout des doigts. Et le Vancouver de Véronique Sanson, c'est une chanson qui referme en beauté l'histoire de Marie et d'Adrien dans le film de Cécile Ducrot, dont Laure Calamy, notre invité, est l'héroïne. Et c'est sur cette douce mélodie que Charline vient de faire son entrée, chaloupant comme un bateau ivre rimbaldien.
Je ne suis pas ivre.
Charline, bonjour. Laure. Et réciproquement. Alors, cette femme du monde, de quoi que ça cause ?
Le film s'ouvre sur Marie, en plein exercice de sa profession. Depuis une vingtaine d'années, elle se prostitue. À Strasbourg, elle a ses habitudes, sa clientèle et aucune velléité de changer de carrière. Marie a un fils, Adrien, 17 ans, un môme un peu perdu, qui n'aime qu'une chose, la cuisine. Sa seule option de formation est une prestigieuse école dont les frais d'inscription sont prohibitifs. Marie va pourtant se lancer dans une course contre la montre pour réunir cette somme. Marie est née avec le court-métrage La Contre-Allée de Cécile Ducrot, sorti en 2014 et dans lequel vous jouiez déjà ce personnage, à ceci près que le personnage du cours n'avait pas d'enfant. On a souvent opposé la maman et la putain, et Marie est les deux, avec force et conviction. Est-ce que c'est ce qui vous a convaincu d'endosser ce rôle presque pour une deuxième fois ?
Oui, complètement. Parce que c'est vrai que le sujet principal, c'est cette histoire d'amour entre cette mère et ce fils. Et il se trouve que voilà, c'est une putain et que voilà, je suis intriguée, questionnée, voire fascinée par les putains depuis longtemps, que ce soit dans la vie, parce qu'on les voit dans nos vies depuis toujours, et puis au cinéma, plus ou moins bien fantasmé. Voilà, j'adore Mamma Roma, j'adore Les Nuits de Cabiria de Fellini, et puis j'aime ce que ça vient questionner, quoi, tout ça, tout cet archétype. Voilà, donc ça.
Les fictions, ouais. Mais alors, précisons d'emblée que dans ce film, le libre arbitre n'est pas une question. Marie n'est pas une victime. Elle défend son métier. Elle se bat pour la reconnaissance de ses droits. Elle milite. C'est une figure pas si fréquente que ça dans les fictions.
Exactement. Bah c'est le point, ce point de vue-là qui me plaisait, c'est qu'elle ne veut pas sortir de la prostitution. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on a mis du temps à pouvoir le financer et qu'on a attendu 7 ans. Et
pourquoi c'est vraiment une raison qu'on vous donnait, objectif ?
Ouais, apparemment c'est quelque chose qui revenait dans les commissions, ouais, dans ce qu'on renvoyait sur le film. Et donc elle aime son métier, on en pense qu'on veut, mais en tout cas, elle se bat pour qu'il y ait plus de droits, parce que c'est vrai qu'effectivement. On parle souvent de la, on nous montre que ça en fait, la dangerosité de ce métier, etc. Mais c'est vrai que cette dangerosité, elle est aussi inhérente à une précarité, une clandestinité qui est toujours là à cause de cette loi. Alors, on a le droit de se prostituer, mais par contre, les clients sont pénalisés, etc. Mmh. Donc, ça pousse évidemment à se cacher, etc. Et puis, comme on le voit dans le film, c'est quand même voilà, des femmes qui paient, ou des hommes qui paient des impôts, qui n'ont pas droit à la sécu, qu'elle, quand elle va demander un prêt, bah, voilà, évidemment, elle n'a pas de bulletin de salaire. Donc, enfin, tout est difficile et voilà. Et renvoie à ça, à cette dureté, quoi.
Une femme du monde de Cécile Ducrot, c'est dans les salles depuis ce matin et ça ressemble à ça.
Elle est pas pour nous cette école, on va pas aller mendier, maman.
Je vais te la payer.
Faut absolument qu'il fasse cette école.
Mais comment tu peux trouver 9000 balles en 2 mois?
Vous pourriez pas me prêter un peu d'argent?
Non, c'est pas possible.
Je suis désolé.
T'as déjà fait une lettre de motivation?
Bah ouais, bien sûr. Bonjour monsieur, j'aimerais beaucoup vous sucer pour un max de pognon. Salutations, votre épouse, bien cordialement.
Arrête, t'es conne. Je vais te payer Perrandier.
T'as fait un prêt?
Je vais aller bosser ailleurs.
Une femme du monde de Cécile Ducrot depuis aujourd'hui dans les salles. Alors pourquoi ce titre qui peut envoyer sur une fausse piste un spectateur distrait? Parce qu'on est très loin d'un biopic de Nadine de Rothschild.
Voilà, exactement. Bah oui, bah c'est ce jeu sur parce qu'on pouvait dire aussi une femme du monde pour parler des prostituées.
Ah oui, je connaissais pas l'expression.
Ouais. Oui. Donc il y a les deux quoi, ou les demi-mondaines, etc. Ouais. Et puis aussi parce que. Bah parce que voilà, comme le dit Cécile, elle est prête à partir au bout du monde pour son fils.
Alors Laure Calamy, vous dites, oui. Je déteste cette expression « rentrer dans la peau du personnage ». C'est tout le contraire qui se passe, c'est le personnage qui rentre dans votre peau. Comment est-ce que Marie vous a percuté?
Oui, elle est, c'est-à-dire ce que j'aime, enfin en tout cas ce qui avait déjà, c'est sa force de vie, sa vitalité, sa manière de jamais renoncer, de ce qu'elle essaie d'insuffler à son fils, de transmettre. C'est voilà, elle est à l'aise partout, cette femme, quels que soient les milieux. Et donc voilà, c'est une prolétaire qui ne renonce à rien et qui et surtout pas à ses désirs et à ses rêves qu'elle a en tout cas pour son fils. Et elle voudrait qu'il se réalise. Et puis parce qu'il y a quelque chose aussi où sans doute elle ne veut pas que son choix de vie se répercute sur son fils en fait. Là pour le coup, c'est peut-être son endroit de fragilité et de culpabilité. Parce que c'est pas facile d'être un fils de pute, même si elle.
Et Dieu sait s'il y en a.
Et voilà. Et donc je suis troublée du coup.
Ah, je suis désolée. Je dis plus écoutez, rien. Je dis plus
non,
rien.
Non, pas de problème. Non, mais j'avais fini d'ailleurs.
Alors non, attendez, je vais enchaîner.
De
si
pas
vous
renoncer
voulez.
À ses rêves, en tout cas. Non, parce que c'est ça que je voulais dire, c'est qu'elle lui en parle. On voit bien que. Elle lui en parle depuis le départ, mais ce qui va faire problème aussi, c'est qu'elle va aller vers une autre prostitution pour, en pensant que peut-être elle va gagner plus d'argent. Une prostitution qu'elle méprise pour le coup. Parce que là, évidemment, on parle depuis le début d'une prostitution libre, enfin,
artisanale.
Indépendante. Voilà. Indépendante. Non, mais pas, voilà, pas dans les réseaux, pas dans les preuves, voilà, pas avec sous la coupe d'un proxo.
Voilà. Charline, vous demandez comment le personnage vous a percuté, mais en fait, vous l'avez dit, hein, il est librement inspiré d'une femme que vous avez rencontrée, qui s'appelle Marie-France, et qui travaille rue Saint-Denis à Paris, avec une photo de son fils accrochée au-dessus de son lit. Qu'est-ce qu'elle vous a raconté des affres de la situation de son métier? Ça vous a beaucoup nourri, ce qu'elle vous a...
J'ai un peu... En fait, on l'avait rencontré au moment du court-métrage, il y a 7 ans. Je dois avouer que moi, je l'ai rencontré 2-3 heures et... Non, je me souviens plus de choses particulières qu'elle nous avait racontées avec des demandes parfois très singulières de certains clients. Voilà. En fait, moi, je suis plus habitée depuis longtemps par Griselie d'Israël. C'est plus ça qui m'a nourrie. Voilà, c'est un livre auquel je reviens et qui, là, évidemment, j'y suis revenue d'autant plus. Voilà.
Ça, vous allez nous en parler tout à l'heure.
Oui, tout à fait. Mais voilà, mais c'est pour dire que. De toute façon, c'est deux mouvements. Enfin.
Il ne s'agit pas d'un documentaire non plus.
Non, c'est une fiction. Je veux dire, Cécile, évidemment, pour ne pas savoir quel est son sujet, je veux dire, bien sûr qu'elle a été voir des bordels, elle a rencontré des prostituées, tout ça. Là, on avait rencontré Marie-France, et effectivement, pour. Après, c'est aussi. En tout cas, ce que j'ai dans mon souvenir, peut-être, c'est ce mouvement. contradictoire et complémentaire de, à la fois, bien sûr, c'est un métier dur, usant, elle le dit d'ailleurs, où on se morcelle, etc. Mais il y a aussi quand même quelque chose qui est un peu de l'ordre du soin, presque. Oui, oui. Et quelque chose qui est comme... quand ça se passe... Parce qu'il y a plein de clients avec lesquels il y a de l'échange, il y a des relations, des clients qui viennent pendant des années, un lien, de la tendresse. Il y a des tas de choses qui se passent, des conversations, ce qu'on voit avec son client Martin, etc. Et voilà.
Bon, c'est un drôle de cadeau, mais bon.
C'est un drôle de cadeau, mais.
On ne dira pas.
On ne dira pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose où je trouve que c'est beau de voir justement ce qu'on ne nous montre jamais. C'est-à-dire quelque chose. C'est un métier qui a son utilité et qui va à la rencontre de l'autre et pour la personne qui le pratique aussi. C'est, tout ça est assez complexe, bien sûr qu'il peut y avoir un passé, des choses très dures, etc. Mais que c'est quand même l'endroit où la prostituée décide des choses, mène, c'est elle le capitaine, la capitaine. Mmh. Et donc elle dit le tarif, ça je ne le fais pas, ça je le fais, ça rien, hein, là tu vas te mettre là, on va faire
c'est
ça,
c'est pour ça que vous m'avez appelé capitaine en rentrant dans le studio. Je ne sais pas comment je dois le prendre.
Ça vous va, c'est bien.
Je ne sais pas.
Mais alors justement, puisque vous parlez de ce qu'on montre et de ce qu'on ne montre pas dans le film.
Je ne sais plus comment m'approcher de ce film. Pardon.
Une femme du monde ne s'appesantit pas sur les scènes de passe. Il s'ouvre sur une scène dans laquelle Marie accueille un client, on montre cliniquement comment les choses se déroulent, mais pas de répétition par la suite, les scènes de sexe ne sont pas le sujet. Est-ce que ça vous a aidé à trouver la juste tonalité
du
personnage, justement, le fait que on n'y revienne pas de manière systématique à ces scènes de passe, que ce soit...
En tout cas, moi, je trouvais bien qu'elles y soient en même temps. Je trouve qu'il y a quelque chose où... C'est en tout cas c'est le bon milieu, c'est-à-dire c'est-à-dire on va pas non plus ne rien montrer et on montre ce que j'aime bien c'est que ce soit l'ouverture comme ça c'est fait, on voit ce qu'on attend de voir. Et après c'est vrai que c'est plus de manière plus sporadique quoi, mais il y a quelque chose non pour moi c'était utile quand même de moi ça m'intéressait de jouer ces scènes-là parce que
mais avec une vraie balance entre
oui, oui, parce que moi, pour le coup, on voit ce qu'on voit, mais moi, je le faisais. Enfin, je veux dire, il y avait et la proximité des corps quand on le faisait, de nos odeurs, on partageait ces moments-là. J'avais des prothèses, de certains hommes pour qu'on ait un peu le mouvement. Enfin, il y a des choses quand même, et qui en même temps permettent d'être dans la chair
dans
du personnage.
Vérité,
il y a quelque chose comme
mais
ça.
Mais en fait, le véritable sujet du film, c'est la relation entre cette mère et son fils. Et cette mère qui est un monument d'abnégation qui est prête à aller très très loin pour que son fils puisse s'en sortir.
Complètement. Elle lâchera pas, c'est un bulldozer. Elle est prête à tout pour lui et c'est vrai qu'elle va s'aveugler même parce qu'elle va... Elle va ne pas voir à un moment donné que lui, elle a finalement réussi à transmettre quelque chose et lui va finalement faire son chemin à sa manière et finalement se donner les moyens de. Alors on dira pas comment, mais enfin en tout cas il y a quelque chose. C'est l'homme de sa vie en fait. Il y a quelque chose parce que c'est vrai qu'on ne sait rien de cette femme et ça
on
je trouve
rien,
ça très beau.
Oui, absolument.
Il n'y a pas de père. Il y a cette relation à ce fils où on sent qu'à un moment donné. Il a été confié aussi à
une
ce couple,
d'accueil,
voilà une famille d'accueil, etc. qu'on voit à un moment donné. Et c'est effectivement c'est tout le sujet du film.
Et c'est raconté
et toute la beauté.
Sans pathos.
Et c'est là où on peut
sans pathos. Sans,
voilà, il y a pas de misérabilisme, mais ça n'est
c'est pas de voyeurisme non plus. Il y a un vrai équilibre assez.
Voilà. Oui, complètement. Et puis, et elle est complètement... pardon, je me suis perdue.
Alors, on parlait de votre fils, justement, Adrien, dans le film. Le fils en question est incarné par un comédien qui s'appelle Nassim Renard.
Nassim Renard.
Comment est-ce que vous avez travaillé avec lui sur ce rapport qui est à la fois maternel et très conflictuel? Je crois que vous avez une méthode assez particulière. Vous êtes assez peu vu avant le tournage.
Bon, c'est pas une méthode, hein, c'est juste qu'il y avait, en fait, il y avait le Covid, donc de toute façon,
c'était juste circonstanciel,
voilà,
d'accord.
Ouais, c'est circonstanciel. De toute façon, on s'est vu, on a fait des essais ensemble, parce que ce qui est normal, ils ont vu plusieurs jeunes, etc. Puis j'en ai vu, j'ai passé des essais avec 5 ou 6, je sais plus. Et c'est vrai que Nissim s'est détaché vraiment de manière flagrante parce que.
D'abord, voilà, parce que d'abord, il a du répondant, il a une énergie, lui aussi. Enfin, il a un truc comme ça, très fort. Et puis c'est un garçon qui a commencé à 5 ans à jouer. On sent qu'il est aguerri. Enfin, ouais. Il y a quelque chose, voilà. Et puis ça, vraiment, ça l'a fait entre nous immédiatement. Et moi, j'aime assez qu'on ne se soit pas vu tant que ça avant. Ouais. Parce que je trouve que... Je suis pas sûre. Je trouve que les choses, elles s'inventent. Toute la matière du jeu, c'est en fait, même si ça fait peur, en fait, parce qu'on a envie de préparer, de je sais pas quoi. Mais en fait, d'abord, il y a un scénario, des situations à traverser. Et ce qui est intéressant, c'est de se jeter dedans, d'aller. Moi, je veux dire, je ne sais pas ce que ça va produire nous deux ensemble, filmés. Et d'un coup, hop, on va inventer notre musique, nos notes ensemble. Et c'est ça qui est beau, c'est de se jeter dans cet imprévu, dans cette instantanéité. Avec lui. Et là-dessus, il était dans le répondant absolu. Enfin, c'est merveilleux.
De l'influence bénéfique du Covid sur l'art dramatique, ce sera le sujet d'une prochaine émission. Une femme du monde, c'est réalisé par Cécile Ducrot. C'est avec vous, Laure Calamy. C'est évidemment recommandé par Pop Pop Pop.
Le Maxi Best Pop Pop Pop. Antoine Decaune.
Et merci à la Laure Calamy d'hier d'être venue nous rendre visite aujourd'hui, une émission qui sera retrouvée en podcast demain. J'en profite pour rappeler qu'Une femme du monde est à voir ou à revoir en VOD. Alors je le disais, c'est le Baptiste Le Caplain d'hier qui monte à bord de ma DeLorean aujourd'hui. Ce sera juste après American Pie, c'est un morceau sucré signé Don McLean.
A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love? And do you have faith in God above? If the Bible tells you so, and do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow? Well, I know that you're in love with him, 'cause I saw you dancing in the gym. Adjourned. No verdict was returned. And why?
the day that I die. This'll be the day that I die.
Don McLean et le morceau c'était American Pie. Aucun lien entre le titre du morceau, notre invité, et le film dans lequel des jeunes se servaient de cette tarte pour se... Baptiste Le Caplain passait prendre le goûter il y a quelques semaines et je vous propose de réécouter tout de suite cette douceur. Quel va être le nouveau morceau du nouveau spectacle, le morceau d'entrée s'il y en a un?
Alors il n'y en a pas et ça a été un sacerdoce pour moi parce que je suis un peu comme Tarantino. En toute modestie, je peux pas démarrer un spectacle si j'ai pas ma musique de début, ma musique de fin. Mm-hmm. La musique de début, c'est une voix d'intro de ma fille. Oui. Voilà, c'est ma fille qui fait l'intro du spectacle avec une voix.
Avec sa maîtresse ?
Non, ça, c'est la grande, elle est toute seule. Mm-hmm. Non, elle est célibe, la grande. 7 ans, célibe, c'est très bien. Et c'est un truc qui me tenait très à cœur. Elle fait un petit message d'accueil trop mignon et j'arrive là-dessus, ouais.
Mais plus de musique alors.
Non, il y a
plus
pas de musique.
Plus cette entrée en matière entraînante. Non. Vas-y.
Non, Philippe Lelièvre que ouais. J'admire énormément m'a dit je t'en supplie fais-moi ce plaisir un jour de rentrer sans musique comme le ferait un vrai comédien.
Ouais. Et ça change quoi?
Bah, c'est des sensations différentes. Mm-hmm. Mais c'est pas mal.
Et à propos de sensations, qu'est-ce qu'on retrouve comme sensation quand on a été contraint et forcé comme tout le monde de s'arrêter? Mais quand on fait du spectacle, c'est différent.
Franchement, c'est un exutoire. Je pensais pas. J'ai pas inondé les réseaux sociaux en disant vous me manquez les kikis. Je vous aime. Oui, je sais pas, c'est les termes qu'on utilise sur Instagram. Les kikis, les coucous, mes chéris, mes amours, ouais. Vous me manquez. Non, mais c'est vrai, c'est une réflexion de Florence Foresti dans son précédent spectacle qui disait je comprends pas ces gens sur Instagram qui disent à leurs followers je vous aime, je vous aime, je vous aime. Et elle disait mais qu'est-ce que vous dites à vos enfants? Je trouvais ça très très drôle. Donc j'ai pas inondé les réseaux de les messages kikis. Comme ça. Mais quand je suis remonté sur scène, honnêtement, et puis surtout de voir l'attente des gens, c'était vraiment une charge émotionnelle assez forte. J'avais pas vécu ça depuis la fois où j'avais rejoué au Bataclan pour Origine.
Ouais. Ouais. Donc l'impression de redémarrer une machine, de reprendre une page blanche d'une certaine manière.
Non, et ben ça, j'ai eu très peur de ça effectivement, parce que généralement quand je break un mois, même de quand je break mon spectacle un mois et que je reprends, la reprise est toujours très chiante parce qu'on a l'impression d'oublier des micro détails qui sont hyper importants. Là, on l'a tellement bien écrit avec Florent Bernard, le co-auteur de ce spectacle. Franchement, je suis remonté sur
Flaubert.
Ouais, le Flaubert, qui est génial. Qui a un mec qui a un talent fou. On l'a tellement cadré, structuré que je suis remonté très facilement en fait. Mmh. Et ça, c'était chouette.
Nous allons donc parler de Voir les gens, ce spectacle, le nouveau spectacle de Baptiste Le Caplain avec Charline. Enfin, nous en parlerons avec Charline Roux, parce que vous n'êtes pas sur scène avec Charline.
Hein. Non.
Non, c'est ça. Alors, je ne l'ai pas vu, c'est pour ça.
Oui, mais c'est pas grave.
Je ne sais pas encore jouer à Paris, c'est ce que je disais en ouverture. Donc, je le verrai, mais j'ai confiance.
Oui, bon. J'espère.
Avant de parler du spectacle, rembobinons un peu votre carrière, Baptiste. Vous êtes né le 23 mai 85 à Mortain-Bocage, dans la Manche. Bon, je déroule un peu vite là, parce que le choc pour vous, il vient de Jacques Gamblin, qui jouait dans Pédale Douce en 1996. Et vous êtes dit à ce moment-là qu'on pouvait être du fin fond de la Normandie, comme Jacques Gamblin, hein, qui vit à Granville, et pourtant faire partie de cette grande famille du spectacle.
Bah oui, parce que je le voyais avec Fanny Ardant, avec Richard Berry, avec Patrick Timsit. Je me disais, mais comment ce gars-là est arrivé là? Et mon père disait, oui, il est de la région, c'est un très bon acteur. Et bon, en plus, le film Pédale Douce, il y a quand même un message, quand même, il y a quand même un délire derrière. Mais j'ai regardé ce film avec mon père en étant totalement fasciné et je trouvais que le mec jouait extraordinairement bien. Et donc après, c'est devenu un peu mon référent culturel, en fait. Mm-hmm. C'était un peu mon Mont-Saint-Michel qui était à Paris, quoi. Je disais, ah, donc on peut avoir un monument de Normandie dans ce paysage. Ça a été mon référent pendant très longtemps et ça m'a vraiment marqué. Ouais.
Vous l'avez visité, votre Mont-Saint-Michel?
Oui, je suis allé plein de fois. Moins que.
Non, moi je parle de Jacques Gamblin.
Ah, mais Jacques Gamblin, oui. Non, je ne l'ai jamais croisé, Jacques Gamblin. C'est un grand regret. J'espère vraiment un jour tourner avec lui. J'ai travaillé avec beaucoup de gens qui ont tourné avec lui et c'est un rêve que j'ai de tourner avec lui.
Mmh. Ben Jacques, si vous nous écoutez.
Oui, ben j'espère.
Avec Pascal, la maîtresse.
Avec la maîtresse de Fanti.
Quand ça fait du monde. Oui. Bon, on sent, mon cher Baptiste, que vous avez souffert du manque d'accès à la culture dans votre Normandie natale. Vous avez dit, chez moi, les films sortaient avec 3 mois de retard. On m'a spoilé 3 fois Sixième Sens. J'étais dégoûté. Enfin, c'est mieux que se faire spoiler 6 fois Troisième Sens.
Exact. Waouh.
Ah oui.
Qu'est-ce que ça écrit? C'est sec. Non, hein, ça mange des fruits secs le matin, ça se voit ça. Oui, non, c'est un. Ce qui m'a notamment frustré, vous savez, c'est quoi? C'est de me rendre compte qu'en fait, on pouvait avoir accès à des films plusieurs fois dans la journée. Mm-hmm. Quand j'ai été à Rennes et que j'ai vu qu'il y avait un cinéma qui avait genre 8 salles, qu'on pouvait voir le même film plusieurs fois dans la journée et qu'il y avait du pop-corn. Ça m'a fait péter un plomb. Et oui, mais c'est l'inconvénient de vivre dans des régions un petit peu reculées. J'ai pas eu accès au théâtre, j'ai pas eu accès au cinéma autant que je l'aurais voulu, mais ça a créé un manque en moi, ce qui fait que je pense qu'inconsciemment ça a fait exploser l'envie et le désir d'y aller, quoi.
Mais paradoxalement, même si vous semblez très attaché toujours à votre Normandie, vous supportez, si je puis dire, les Girondins de Bordeaux.
Ouais.
C'est-à-dire que si vous étiez né en région bordelaise, vous auriez supporté le Stade Malherbe de Caen, comme
peut-être
fait Orelsan ce week-end.
Exactement. Ouais. Mais le Stade Malherbe de Caen, s'ils avaient eu Zinedine Zidane un soir de 1996. Mmh. Mmh. Ça aurait peut-être aidé, mais bon, ouais, je suis fan des Girondins de Bordeaux et ils me ruinent le moral de plus en plus. Mm-hmm. J'ai subi ce 3-3 hier contre Metz à 11 contre 10, c'était insupportable. Mais oui, mais je les aime dans le cœur, hein. C'est dur, hein, oui, j'ai souffert de plein de trucs. J'ai souffert de manque de popcorn et de manque de titres. Mais bon, c'est un beau club de foot que j'adore, ouais.
Bon, et à propos de morale, justement, le spectacle Voir les gens dont nous allons parler a vu, justement, 110 représentations annulées à cause du confinement. Et donc pas vu grand monde en fait l'année dernière.
Hein. Ouais, pas grand monde. D'accord.
Et on parle actuellement de cinquième vague. Ouais. Alors que vous êtes en pleine tournée, c'est ça ce qu'on appelle le flair.
Oui, exactement. Oui, ça fait très flipper. Hein. Alors je regarde pas BFM TV quand je suis ou les chaînes d'info quand je suis à Paris parce que je veux pas me foutre le moral à zéro. Quand je suis en tournée, j'ai pas grand chose à faire à part mon sport, donc je regarde. Mmh. Ça fait très peur, mais je pense qu'on va passer au-dessus de cette cinquième vague. Je pense que la France est Kelly Slater. C'est Kelly Slater qui faisait du surf.
Kelly Slater,
ouais, c'est ça. Ouais, on va passer au-dessus. Un peu comme Keanu Reeves dans Point Break. Uh-huh. Après, j'ai plus de rêve à des films avec du surf.
Non, mais ça suffit.
Il y en a pas eu beaucoup.
De films de surf déjà en moins de 30 secondes.
Oui, c'est beaucoup.
Bon, Voir les gens, votre nouveau spectacle. On en parle dans la suite de Pop, Pop, Pop avec Charline Roux juste après La Fama. C'est le nouveau morceau signé de la rencontre entre l'artiste espagnol Rosalía and The Weeknd.
Creas que no dolió. non daba. Y él tantas veces que me lo decía, yo como si nada.
Es mal amante la fama y no va a quererte de verdad. Es demasiado traicionera y como ya viene se te va. Sabe que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiere duerme con ella, pero nunca la vayas a casar. Lo que pasó me ha dejado en vela. Ya no puedo ni pensar. La sangre le hierve. Siempre quiere más. Puñaladita está su ambición en el pecho afilada. Es lo peor.
Es mal amante la fama y no va a quererme de verdad. Es demasiado traicionera y como ya viene se me va. Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar. No hay manera de que esta obsesión se me fuera y desaparezca. Yo aún no aprendí la manera.
No hay manera que desaparezca. Y como ya viene, se te va.
Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiero, duermo con ella, pero nunca me la voy a casar.
Rosalía, The Weeknd. C'était le morceau La Fama. Alors je vois que Baptiste Le Caplin se moque de ma prononciation de The Weeknd. Mais je vous rappelle qu'il n'y a pas de E entre le K et le D, oui. Entre le, non, il y a entre le K et le N, hein, il n'y a pas de E.
Non, c'est ça, entre c'est le K et le N.
Normal de dire de week.
Oui, c'est très bien. C'est à l'oreille, ce n'est pas très agréable, mais oui, c'est bien.
Mais ce n'est pas moi qui ai trouvé ce titre.
Je comprends, il n'y a pas de souci.
Comme vous voulez voir les gens, si on en croit le titre de votre nouveau spectacle, Baptiste Le Caplin, voici une Jean, à elle toute seule.
Je ne sais pas si c'est super flatteur. Charline. Bonjour.
Bonjour, Charline.
Bonjour, Charline.
Alors, voir les gens, on le disait, noble projet, grosse, grosse ambition par les temps qui courent. Nous nous sommes parlé l'année dernière dans une émission, alors que justement, nous étions tous contraints aux entretiens visio. À quel moment est-ce que ce titre vous est venu? Est-ce que vous avez songé à en changer à un moment?
Du tout, parce qu'en fait, c'était ma... Donc, j'ai deux filles, parce que j'aime bien faire l'amour. Mm-hmm. quand je partais jouer mon spectacle, je ne disais pas, je vais travailler, parce que pour moi, la notion de... travail et de spectacle, ça va pas ensemble, enfin très sincèrement. Et je voulais pas dire non plus à ma fille, je vais jouer, parce que sinon elle allait me dire, bah je veux venir. Mm-hmm. Donc je disais, je vais voir les gens. Et quand elle a été en âge de répéter, elle m'a dit, tu vas voir les gens. Et j'ai trouvé dans sa bouche, c'était très beau. Et je me suis dit, ce sera le titre de spectacle. Donc je l'ai gardé, ça fait 4 ans déjà, 4-5 ans. Hein.
Elle a grandi.
Elle a grandi maintenant. Ouais, elle s'exprime mieux maintenant.
Maintenant, elle vous dit voir les gens.
Ouais, tu vas jouer. Tu vas cachetonner. Tu vas faire ton statut.
Tu vas faire tes heures.
Voir les gens, c'est votre troisième spectacle et c'est une phrase que vous glissiez donc, vous venez de le raconter, à l'oreille de votre fille quand vous partiez en tournée. C'est une petite fille qui avait à l'époque 3 ans.
Oui.
Papa va voir les gens. Vous pouvez me refaire sa voix à l'époque?
Papa, tu vas voir les gens?
Ah,
c'est ça.
Ah oui.
C'est mignon, hein?
Ouais, c'est son charme.
Mignon,
ouais.
Ou un peu flippant. Moi, je trouve qu'on n'est pas loin du titre de l'épisode d'Affaires Sensibles. Vous voyez, Baptiste Le Caplin, le Normand qui voulait voir les gens. Ça peut mal finir aussi.
Oui, ça peut voir les gens. Ouais. Oui, on dirait un peu, oui, ok. Vous voulez dire que ça part en fait divers?
Ouais, ça peut un peu partir en fait divers, mais bon. L'affiche de ce nouveau spectacle vous représente dans ce qu'on imagine être un distributeur automatique de friandises, main contre la vitre, un peu hagard. Alors, est-ce que c'est une métaphore sur l'enfermement ou une dénonciation d'un certain mode de consommation, Baptiste Le Caplin?
C'est un peu un mode de consommation. Mais je vous avoue un truc aussi, c'est que je passe tellement de temps dans les gares que j'ai vu énormément de distributeurs comme ça. Je me dis, putain, mais en fait, c'est un peu joli si on mettait un gars dedans. Et j'aime bien, vous avez vu, les trucs un peu colorés, mais j'aime bien les rappels de couleurs comme ça. Je trouvais ça joli. Voilà, le distributeur, je passais du temps aussi quand j'étais enfant, que j'étais devant.
Un distributeur, on met des coups de latte dedans. Hein.
Ouais.
Vous n'avez pas peur qu'on vous mette des coups de pied, vous savez, comme quand le paquet de M&M's est coincé entre deux étages.
Non, mais bon, voilà, c'est quand même, ça me fait un peu aussi penser à la société de consommation. Je suis à la dispo des gens, ils mettent une pièce, ils me font tomber, et puis voilà, et puis après, ils vont
voir. Faites-nous rire, le célèbre, une pièce, faites-nous rire, Baptiste.
Mais oui, mais c'est ça, mais il faut l'accepter. Quand on l'accepte et qu'on le sait, c'est pas glauque.
Alors, dans ce nouveau spectacle, il est beaucoup question de vie de famille, mais je voudrais avant toute chose vérifier quelque chose, Baptiste Le Caplain. L'hiver s'installe doucement dans la nuit.
La nuit, c'est quoi après?
La neige.
C'est la Reine des Neiges. Oui, mais là, je mate le 2, moi. Et je mate le 2 souvent, et dans le 2, il n'y a pas de chanson hyper commerciale. Ils ont été très cool, d'ailleurs.
Dans un autre monde, quand même.
Oui, mais elle est bien. Hein.
C'est quoi déjà là?
Dans un autre monde.
C'est inchantable. C'est-à-dire que ça va tellement haut que.
Ça va tellement haut que.
C'est dans un autre monde.
Non, mais ça va tellement.
Ah, pas mal.
Non?
Ouais. Et après, là, c'est.
Je peux aller très haut.
Dans un autre monde.
Fiche la neige.
Alors c'est très étonnant.
Fiche la neige.
Les gens de Disney viennent de téléphoner pour signifier qu'aucun d'entre nous ne fera le doublage voix de la prochaine princesse.
Non,
c'est mérité.
Une deuxième chance. Bon, Baptiste Le Caplain, vous pitchiez votre précédent spectacle Origine de cette manière. Vous disiez, dans mon spectacle, il y a beaucoup de monde. Un chat qui fait miaou, mon père en slip, ma mère aussi. Un saumon qui parle et plein d'autres choses que je ne peux pas expliquer. Pour celui-ci, vous dites, je vous cite toujours, que c'est comme une piscine à boules pour adultes, mais dans laquelle on peut garder ses chaussures. Alors, j'ai pas de questions. Je vous laisse enchaîner.
Alors, au moment où on m'a appelé, je sortais de confinement et j'ai été dans la piscine à balles qui était à côté de chez mes beaux-parents.
À boules.
À la piscine à boules. Mmh. Ouais, je dis piscine à boules, je trouve ça un peu pervers.
Ah, ça.
Donc, mais c'est vrai, franchement, parce qu'il y a toujours un adulte. On voit jamais les frogs des gens. Je me dis, j'ai toujours peur qu'il y en ait un poil dedans. Bon, bref. Et au moment où on m'a dit il faudrait faire le texte du résumé du spectacle, j'étais dans une piscine à boules. Mmh. Et j'ai dit, t'as qu'à dire que c'est une piscine à boules pour adultes et on peut garder ses pompes. Parce que je déteste enlever mes pompes dans ces trucs-là. Et je déteste encore plus mettre des pompes à des... Aller mettre des pompes qui chose du 22 à des enfants qui veulent pas partir.
Cauchemar.
Non, mais ça c'est un cauchemar.
Qu'est-ce qu'on pourrait en déduire, Charline?
Moi, je pense que comme beaucoup de couples, ils passent beaucoup de temps chez Ikea, parce que la piscine à boules, c'est quand même symptomatique du Ikea.
Ouais, mais non, c'est une autre. C'est dans une zone commerciale à côté de
n'en dévoilez pas trop.
Non, voilà.
Vous dites quand même être dégoûté par l'absence de piscine à boules pour adultes.
Ouais, mais non, ce qui est chiant, c'est l'immédiateté d'enlever ses pompes à chaque fois. Pourquoi on doit enlever ses pompes? C'est déjà suffisamment crade. Enfin, la piscine à boules du McDo, pour pas la citer. Vous savez le nombre de gosses qui bouffent avec leurs mains et qui vont ensuite toucher les boules. Enfin, je veux dire, c'est immonde, quoi. Voilà, il y a un truc. Enfin, on n'est clairement pas dans les gestes barrières.
Non.
Donc, non, je vois pas pourquoi on doit enlever ses pompes. C'est ridicule.
Voir les gens. Voilà. Voir les gens, c'est le titre du spectacle de Baptiste Le Caplain. Nous avons une passion commune, les adaptations de films en québécois.
Et il y a pire que les mauvaises versions, il y a les Québécois. Alors, eux, les Québécois, ce qu'ils font, c'est qu'ils niquent le film dès le titre. C'est-à-dire que le film sort de Dirty Dancing. Quand c'est sorti en France, on a appelé ça Dirty Dancing. Non. Eux, ils ont appelé ça Danse Lascive. C'est quand même dégueulasse. Sherlock Holmes 2, ils ont appelé ça L'Artiste. Il n'y a aucun rapport. Titanic, ils étaient à deux doigts d'appeler ça Oulala, elle est pas chaude.
Passion commune, disais-je.
Oui, vous aimez bien ça aussi?
J'adore, évidemment.
Mais c'est vrai que les titres, ils font n'importe quoi.
N'importe quoi, je ne sais pas, ils s'amusent.
Ah oui, ils s'amusent beaucoup, mais c'est de l'autodérision, enfin c'est du second degré, on est d'accord.
On ne saura jamais,
mais il y a des trucs vraiment, ça fait flipper. Hein. Quand vous allez dans un vidéoclub au Québec et vous demandez un film, pour trouver le titre, c'est un jeu de piste. Hein.
Voir les gens, ça peut donner quoi en québécois?
Voir les gens?
C'est déjà ultra francophone.
Ouais.
Ils traduisent généralement quand il y a des anglicismes dans les phrases. Non
exactement.
Mais voir les gens, t'as trouvé des trucs quand même.
Vois-tu ta ganache? Je sais pas comment ils disent.
L'accent est bien en tout cas.
Je le maîtrise. Je crois bien le maîtriser, mais ils détestent quand on fait ça.
Ouais.
Voiture ta poire.
Baptiste Le Caplain, retournons voir les gens, ou plutôt vous entendre parler de voir les gens. Cette phrase n'est grammaticalement pas très correcte, mais tout le monde m'a comprise.
Oui, je vous ai tout à fait comprise, Antoine. Un spectacle dans lequel vous vous livrez beaucoup, Baptiste, réalité ou fiction, je ne présume de rien ni ne juge, mais vous semblez d'un naturel relativement secret au civil. Qu'est-ce qui se passe quand vous montez sur scène?
La sincérité sur scène, je trouve que c'est le plus parlant et le plus créatif. Je trouve que c'est le... Et puis ça permet d'éviter les sujets en commun avec les autres collègues. Et surtout, ça laisse place à l'autodérision. Et je pense que c'est important. On passe quand même la majeure partie de notre temps à se moquer de nos semblables. Je pense que c'est bien d'arriver à se moquer de soi. Et là, je me charge pas mal. Enfin, la mule, elle est bien chargée, notamment sur la fin. Mais c'est... Oui, je sais que c'est contradictoire d'être aussi réservé dans la vie et d'en parler sur scène. Mais c'est comme je vous avais expliqué dans cette excellente émission qui est Profession, c'est qu'il y a un truc de contexte. Les gens viennent m'écouter. À partir du moment où ils ont fait la démarche de venir me voir pour m'écouter, je me dis, bon, bah, je peux parler de trucs. Mais dans la vie, c'est vrai que je déteste m'imposer, quoi. Je suis vraiment... je suis le plus discret de la planète Terre.
Et est-ce que la rapidité à laquelle vous enchaînez les idées sur scène est aussi une idée de mise en scène, justement, qui vous permet de jouer sur la sidération du public? Ça participe aussi.
pour moi, ça doit être une performance. Si c'est juste un gars qui se met derrière un micro et qui sort un texte, il faut vraiment que le texte soit... au-delà de enfin faut pas que ça paraisse facile ce qu'on fait ou alors faut avoir un texte digne d'Haroun ou de Blanche Gardin, mais pour moi monter sur scène c'est une performance. J'aime que les gens sortent et disent waouh, moi ça je pourrais pas le faire. Donc aller vite, enchaîner les idées, les incarner, enfin franchement j'adore, parce que j'ai vraiment l'impression à chacune de mes représentations d'être dans un état second. J'ai pas l'impression à aucun moment de me dire ouais, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. J'ai vraiment l'impression d'être pris dans un truc et je me laisse aller, quoi.
Baptiste Le Caplain, ce spectacle, vous l'avez donc écrit avec Flaubert.
Ouais.
Alors, pas Gustave, hein, qui est normand pourtant.
Oui.
Mais qui en ce moment est en train d'écrire le prochain stand-up de Ken Kejandi, si mes infos sont bonnes. Mais Florent Bernard, célèbre Florent Bernard, auteur de multiples séries et co-créateur du Floodcast, dont nous avons parlé ici même il y a quelques semaines. Flaubert qui vous a apporté de la rigueur et de la structure, dites-vous.
Ouais. Oui, il m'a fait écrire à l'envers. En fait, la rencontre, elle est géniale. Enfin, franchement, c'est une super belle rencontre déjà. C'est au-delà du fait que ce soit une très très belle personne. C'est un monsieur extrêmement talentueux. C'est un passionné d'humour, de films. Enfin, il bouffe, mais il regarde tout. C'est un mec qui est ultra brillant. Et on a écrit Pitch ensemble. Mm-hmm. Et quand on a terminé la deuxième saison de Pitch, il m'a dit « J'aimerais écrire avec toi le spectacle, parce que je trouve qu'on s'entend bien. Il y a une connivence, j'ai envie d'écrire avec toi. » Et j'ai dit « Ouais, mais j'ai déjà écrit pas mal. J'ai déjà quasiment le spectacle. » Il m'a dit « Justement, j'aimerais bien apporter ma méthode. Mm-hmm. » Un peu la méthode Williams avec Will Smith. Ouais. Et en fait, il m'a dit « Viens, on le structure. On trouve les thèmes. » Et sur un thème, on trouve des blagues. Et je dis, mais moi, je fais à l'envers. Moi, généralement, c'est l'idée drôle qui m'amène le thème. Il me dit, bah, viens, on fait autrement. Et il m'a obligé à structurer le spectacle. Vraiment, c'était flippant. J'ai vraiment flippé la première séance. Je me suis dit, mais c'est absolument pas ce que je fais. Et le spectacle est vraiment structuré. C'est pour ça que je l'ai pas perdu en tête. Quand je l'ai repris, il est vraiment ancré en moi. Je l'oublierai jamais, ce spectacle, je crois.
Et c'est en ça que vous dites qu'il vous a fait sortir de votre zone de confort, ou c'est aussi parce qu'il vous a emmené sur des sujets que vous auriez pas spontanément abordés?
Bien, j'aurais pas abordé spontanément certaines choses, tout simplement parce que il m'a dit, par exemple, on pourrait parler de l'évolution, parce que l'évolution, c'est bien, on peut parler des choses qui ont changé, comme on va parler de l'éducation, on peut dire que l'éducation a évolué aussi. Mais je dis oui, mais ça veut dire qu'il faut parler des choses qui ont évolué avant l'éducation. Il m'a dit, bah viens, on cherche des trucs qui ont évolué. Et il a googlé les choses qui ont évolué. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et il m'a dit, regarde les inventions, il y a des trucs fous. Et il m'a dit, regarde, tu savais que la fusée, ça a été inventé avant la valise à roulettes? Je lui ai dit, bah non, je savais pas. Et il m'a dit, bah regarde. Et du coup, il m'a dit, bah viens, on trouve des blagues là-dessus. Et j'ai adoré écrire comme ça. Parce que il m'a imposé des thèmes. Et du coup, c'était trop bien, quoi. Enfin, il m'a challengé il m'a envoyé dans des zones d'ombre absolument génialissimes, quoi.
Et également dans les thèmes abordés, votre fascination pour cet objet. Les aspirateurs Dyson, pour ne pas les citer.
Aspirateurs sans sac.
Ouais, sans sac. Expliquez-nous d'où vous vient cette...
Je suis très maniaque. Je suis très, très, très maniaque. Je passe l'aspirateur 3 fois par jour. Et la sensation de voir des trucs sur le sol qui sont sales et de les voir aspirer et de les vider direct dans la poubelle, c'est extraordinaire. Mais franchement, mais j'adore ce truc. Hein. Je passe l'aspi 3 fois par jour.
Le Maxi Best Pop Pop Pop, Antoine Decaune.
Merci Baptiste Le Caplain. Pour voir Baptiste Le Caplain, c'est possible car il est en tournée avec son spectacle Voir les gens, et qui a vu verra, comme disait la pub pour les lingettes nettoyantes pour lunettes. Après avoir vu Baptiste Le Caplain, je vous propose d'écouter un morceau signé Peter Doherty et Frédéric Law, c'est The Epidemiologist.
The best laid plans can oft go too far. We run down B&Bs, can turn to luxury. A wish that is wasted still can be granted. Hope that is doped still can be planted. I search and I search. I lurch headlong into atrocities with an exponential no, no need to epidemiology. Little pink Enzo, little blue Benzos, hip hop, bebop, all blues and punk rock. Heads that are shrunken still can be clever. Ships that are sunken still can hold treasure. I search and search and lurch headlong into atrocities with a velocity known only to very few rational. Headlong into such atrocities with an exponential no, no need to epidemiology. There she yell, Hammond, Emile Lajar, Peter Lorre, and Humphrey Bogart, Jane Seabird, Daniel Dark. Panic in the streets and panic in Needle Park. Oh yes, I search and I search. I lurch headlong into atrocity with an exponential known only to very few ever.
Epidemiologist, c'est signé Peter Doherty et Frédéric Lowe et ça sonne la fin de ce maxi best pop. Je sais que vous êtes trop tristounet, mais l'eau de consolation dès demain avec le rembobinage des pop 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 d'Antoine Doll et d'Aldebert et de Philippe Catherine et de Julien Bert. Voilà, vous avez le sourire. À demain. Juste après les infos, rendez-vous avec toute l'équipe de Par Jupiter, emmenée par Charline Vanhoenacker.